10h, 11h sur RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois parle des épilepsies. Aujourd'hui, waouh, mais que je suis bien entouré avec Aurore. Bonjour Aurore.
Bonjour Thomas.
Comment vas-tu ?
Bien et toi ?
Très très bien. Marie-Agnès est également avec nous. Bonjour Marie-Agnès.
Bonjour Thomas.
D'habitude témoin, mais cette fois-ci membre de l'équipe, ça fait plaisir.
Voilà.
Céline également avec nous. Bonjour Céline.
Salut Thomas.
Et nous sommes accompagnés aujourd'hui pour parler d'un sujet important. On va parler d'épilepsie et de scolarité. Et pour ce faire, dans ce studio, nous sommes avec Marie Ducruix. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors Marie, on en reparlera, vous serez un peu notre grand témoin, vous allez nous raconter votre histoire, mais pas que. Vous êtes venue avec le témoignage d'autres personnes qui font partie ou que vous accompagnez dans l'association qui s'appelle
Épi Bretagne, et plus largement en fait dans le cadre de la fédération EFAP Épilepsie, qui est pour représenter et défendre les droits des personnes avec une épilepsie sévère.
Et bien on en reparlera évidemment tout à l'heure. Et puis avec nous en ligne, nous sommes avec Madame Jaillet. Bonjour Madame Jaillet.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes neuropsychologue à l'ITEP de Toularchouate, c'est bien comme ça qu'on dit ?
À l'ITEP de Toularchouate.
Oui, Toularchouate, eh ben voilà, j'ai mis un pourquoi, voilà, il y avait un CH devant, je l'ai évidemment prononcé ce qu'il ne fallait pas faire. Et le docteur De Grissac également, vous êtes neurologue également à l'ITEP de Toularchouate, c'est bien voilà. Ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Nous vous entendons pas très bien.
Ah, alors on va essayer de monter un peu le volume, ça c'est de la technique.
Ce que je vous propose.
Voilà, vous nous entendez mieux, très bien.
Oui, c'est mieux. Merci.
Et vous allez donc nous accompagner durant cette heure, je le disais, pour parler d'épilepsie et donc de scolarité. Ce que je vous propose, et comme chaque mois, nous avons sorti le micro RCN dans les rues de Nancy pour poser quelques questions aux gens dans la rue. Et du coup, qui veut poser la première, qui nous dit la première question qui a été posée ? C'est vous, Marie-Agnès ? Elle est ici. Hop !
Selon vous, est-ce qu'un enfant épileptique peut réussir à l'école, et sinon, pourquoi ?
Eh bien, on écoute les réponses maintenant.
Bon, je pense qu'il part, avec des difficultés déjà, c'est sûr. Après, je sais pas comment ça se passe, les épilepsies, je sais, c'est par des crises.
Il peut aller aussi loin, parce que c'est des crises, alors.
Oui, selon comment c'est procédé par l'endroit où il est, jusqu'au niveau maximal.
Ouais. Moi, je pense qu'il est juste en difficulté par rapport à la non-connaissance des professeurs.
Vous souhaiteriez quoi, alors ?
Qu'on adapte l'école à l'enfant épileptique.
Et qu'on renseigne plus
sur la maladie et ses traitements.
Pourquoi pas, puisque c'est forcément une sorte de, malheureusement, de handicap, mais pourquoi bloquer les gens sur le handicap ? Il faut juger la personne.
Je pense qu'il y a des traitements qui régulent les crises et tout ça. Je pense qu'avec un bon traitement, je pense qu'il peut suivre au moins des cours et puis réussir. Après, c'est chaque enfant, hein. Ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Après, je ne pense pas que ça diminue les capacités intellectuelles, l'épilepsie.
Beaucoup de choses qui sont dites dans ce micro-trottoir. Je vais vous proposer de réagir. Peut-être Marie, pour commencer, dans ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui vous interpelle le plus ou qu'est-ce qui vous marque le plus ?
Je dirais que ce qui est beaucoup revenu, déjà, c'est la notion de crise, qui a l'air d'être assez, finalement, omniprésente dans le témoignage des gens et qui montre une vision, alors c'est pas du tout pour les critiquer, mais une vision très crisocentrée, si je puis dire, de l'épilepsie. Et c'est finalement cette nécessité d'élargir la vision de la maladie qui nous préoccupe.
Peut-être de rappeler et de bien faire comprendre qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie et que tout ne va pas tourner qu'autour de la crise, ou que la crise n'est pas forcément celle qu'on imagine toujours. Vos réactions peut-être à l'ITEP de Toularchouate, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce que vous venez d'entendre ?
Docteur Le Grissac, moi aussi je suis assez marquée par cette réaction juste des crises, en fait, alors que tous les à côté des crises est à prendre en compte. D'une part, l'imprévisibilité, qu'on ne sache pas, et finalement l'imprévisibilité, c'est que c'est permanent, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va survenir. Les troubles associés à l'épilepsie sont mal connus, on en reparlera.
Bien sûr.
Moi, ça m'a frappé. Et puis, de dire qu'avec un bon traitement, ça va passer, en fait, comme si le traitement suffisait, c'est clair que, à mes yeux, la réponse, elle n'est pas sur l'ordonnance.
Je l'avais noté aussi, hein, l'histoire du bon traitement, ça peut prêter effectivement à sourire, parce que c'est effectivement un manque peut-être de connaissances. Et d'ailleurs, c'est dit dans le micro-trottoir que des fois, c'est aussi par manque de connaissances. Alors, on parle des profs, mais aussi du grand public. Je vais poser la même question à vous, Madame Jaillet. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce micro-trottoir qui vous fait réagir ?
Alors moi, de par ma profession, ce qui m'a fait réagir, c'est l'histoire de la déficience
entre guillemets, intellectuelle. Non, effectivement, quand on a une épilepsie, on n'a pas forcément une déficience intellectuelle, bien évidemment, mais il va falloir aussi regarder l'étiologie, c'est-à-dire la cause de l'épilepsie. Et des troubles cognitifs qui sont associés, vous l'aviez évoqué au mois de septembre dans votre émission déjà, voilà, et qui vont être très handicapants éventuellement pour une scolarité dysplastique.
Et on y reviendra évidemment tout à l'heure. Je ne vous ai pas posé la question, Aurore, Céline ou Marie-Agnès, sur ce micro-trottoir, mais vous pouvez aussi, je pense, réagir à ce qu'on vient d'entendre.
Ben, pour ma part, pour l'avoir réalisé, j'étais assez... contente de voir que les gens étaient assez positifs par rapport à cette intégration des enfants dans l'école. Voilà, voilà.
Oui, globalement, on entend quand même ce message, et on va y revenir, que c'est pas parce qu'on souffre d'épilepsie qu'on peut pas suivre une scolarité. Ouais. Mais on reviendra tout à l'heure sur quel type de scolarité, est-ce qu'elle doit être adaptée ou pas, on en reparlera évidemment. Aurore, Céline, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, Céline ?
Et peut-être également les conditions de cette scolarité. On entend la question de la connaissance des professionnels et de la nécessité d'adapter, de se former, de sensibiliser. Donc je pense qu'on y reviendra.
Oui, on en reparlera dans l'émission. Absolument. Aurore,
oui,
des choses à rajouter.
Beaucoup d'avis favorables.
Sur le fait de scolariser.
Oui, tout à fait.
On va écouter maintenant les réponses à une deuxième question que vous êtes allé poser dans la rue. C'est pareil, Marie-Agnès qui nous donne la question qui a été posée.
Alors, est-ce qu'un élève épileptique doit nécessairement aller dans une classe adaptée?
Pas forcément. S'il est soigné et qu'il a les médicaments pour, il peut suivre un cursus normal. Je pense.
Et puis il peut avoir une accompagnatrice aussi. Ça existe maintenant.
Oui, c'est ça.
Donc il y a tout pour qu'il puisse aller à l'école normalement comme les autres.
Ça c'est compliqué parce que ça a trait aussi au développement de l'enfant. Des fois c'est difficile pour eux de se retrouver dans une classe, de ne pas être avec les enfants normaux entre guillemets. Oui. Ça, je pense aussi que ça sera à voir avec l'âge de l'enfant. S'il a l'âge de le comprendre. Oui, j'imagine qu'il y a des milieux dans lesquels ça peut poser problème. Je sais pas, tout de suite, je pensais au milieu médical, ou même avec des endroits lumineux.
Normal, mais on adapte avec une AESH.
D'accord. J'étais enseignante, j'ai eu des enfants épileptiques dans ma classe.
Oui. Et ça s'est bien passé?
Oui. Là, il fallait surveiller. On nous avait tenu au courant en cas de crise, et on nous avait dit ce qu'il fallait faire, mais... Ça s'est bien passé, oui.
Je ne connais pas de l'intérieur, je ne sais pas quel est son désir. Moi, je serais tentée de dire que c'est mieux qu'il soit mélangé avec d'autres enfants.
L'épilepsie, pour moi, c'est des crises, donc ce n'est pas tout le temps. Oui. C'est pas simplement que je pense qu'il faut peut-être plutôt former l'institutrice en cas de crise pour qu'elle fasse les premiers gestes qu'il faut.
Bonne question. Bah, je pense qu'il faut voir... plus un endroit où il sera plus à l'aise avec peut-être d'autres jeunes qui ont aussi peut-être des petits soucis. Comme ça évitera aussi peut-être le harcèlement par des petits camarades qui ne seront pas forcément à même de comprendre sa position, sa situation personnelle, sa vie de tous les jours. En milieu adapté, parce qu'il faut quand même du personnel qui soit quand même aussi... qui connaissent le souci de la personne, de cet enfant, et puis s'adapter aussi et par rapport à l'enseignement.
Si j'ai un enfant qui a le même cas, je voudrais bien qu'il soit dans une école ou bien dans une classe spécialisée, c'est mieux.
Il y a beaucoup de choses là qu'on entend et qui sont dites. On entend parler de l'adaptation du programme et de la façon d'enseigner. On entend parler de l'information. Beaucoup cette notion aussi d'information. Allez, on va refaire un petit tour de table. Je vais commencer cette fois-ci peut-être par Madame Jaillet au téléphone, puis on finira par vous, Marie. Madame Jaillet, réaction sur ce qu'on vient d'entendre.
Oui, effectivement, il y a cette notion de formation des enseignants, mais pas que. Il y a également la notion d'AESH qui a été évoquée.
Oui.
Et je pense qu'il va falloir qu'on en rediscute vraiment longuement, parce qu'une AESH, c'est bien, mais ça peut aussi ne pas être bien.
D'accord.
Donc, voilà. Et puis après, il y a un monsieur qui intervenait sur le fait que peut-être d'être avec des enfants partageant la même maladie, ça pouvait être bien aussi. Je pense que c'est aussi une notion qui va être importante à revoir.
On va en reparler, évidemment. On va donner la parole maintenant au docteur De Grissac. On vous écoute sur ce micro-trottoir. Du coup, votre action?
Oui, j'ai été touchée par la personne qui dit « Je ne connais pas de l'intérieur son désir ». Je trouve que ça, c'est très intéressant de se dire qu'on pourrait entendre la parole de l'enfant, parce qu'il peut y avoir un écart entre le désir profond de l'enfant et les injonctions de la société, des enseignants ou des parents. Et c'est vraiment d'être sûr qu'on est en phase tous et de se mettre d'accord, mais en tenant compte de la parole du jeune.
Oui, parce qu'on entend aussi cette dame qui dit « si ça avait été mes enfants, je crois que j'aurais préféré qu'ils soient en milieu normal avec des enfants normaux ». Ça, on l'a entendu aussi. Marie, votre réaction sur le micro-trottoir ?
Bah, je pense que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Deux points, je dirais, qui m'ont frappé. Déjà, on retrouve cette question de l'adaptation. Mmh. Donc, ce qui a l'air de traverser les témoignages qu'on a entendus jusqu'à présent, c'est l'adaptation du milieu ordinaire. Mmh. Moi, ça me choque pas en fait que les gens disent ça, parce que j'ai envie de dire ça relève du bon sens. Finalement, la personne qui a une épilepsie, est-ce qu'elle sort de la norme, parce qu'on a entendu parler d'enfants normaux. J'ai envie de vous répondre non, en fait. Donc on attendrait effectivement que voilà le grand centre, le grand point dont il faut s'occuper, c'est la question de l'adaptation du milieu ordinaire. Tout le monde a l'air d'en convenir, donc on attend que la hiérarchie se saisisse du sujet. La deuxième chose, c'est je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Jailly avec grande justesse. En fait, c'est le témoignage de ce monsieur qui évoque le nerf de la guerre en fait de ces questions de épilepsie et scolarité, qui est le harcèlement. Effectivement, la question du harcèlement, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui n'arrive pas d'ailleurs qu'aux enfants avec une épilepsie, qui est multifacette ou multiface, je ne sais plus comment il faut dire.
On va dire multifacette, c'est pas mal.
Voilà. C'est... Et la réponse que propose ce monsieur, en fait, c'est l'idée que oui, du coup, il faudrait un milieu plus adapté avec d'autres personnes qui auraient, il appelle ça les petits soucis.
Ouais,
j'ai trouvé ça très, très mignon. Voilà,
très mignon. Alors, mais ça implique aussi quand même qu'on justement, on sort l'enfant qui souffre d'épilepsie d'un côté enfant normal aussi quand on dit ça.
Voilà, exactement. Et donc, c'est là où j'ai envie de rebondir. J'ai dit, des milieux pour les enfants qui ont, j'ouvre les guillemets, des petits soucis, ça existe déjà. On en parlera peut-être après. Je pense à tout la Rouate. Mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre en fait du projet qui est celui du gouvernement notamment sur ces questions d'école inclusive? Est-ce que on peut vraiment mettre en place une école inclusive si l'idée qui infuse en fait chez les gens, c'est de séparer, d'avoir une forme de séparation scolaire entre les personnes qui seraient, je prends les guillemets pour reprendre les termes du micro-trottoir, normal, et les personnes qui ont, encore une fois, je cite, des petits soucis.
Ouais, absolument. On va, je pense, largement revenir dessus pendant l'émission. Céline Aurore, Marie-Agnès, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, moi, ce qui m'avait marqué un peu, c'était la bienveillance, en fait, le côté, ce qui compte le plus, c'est le bien-être de l'enfant. Milieu spécialisé ou pas.
Ça, c'est important. Marie-Agnès, rapidement.
Moi, je trouve que, franchement, il faut d'abord demander à l'enfant.
Oui.
Ce qu'il veut.
Ça rejoint ce que disait il y a quelques instants le docteur De Grissac. Et toi,
ouais,
Céline ?
J'allais dire pareil. Deux choses qui m'ont marqué, encore cette vision très médico-centrée en épilepsie. On recourt aux soins. S'il y a les traitements, c'est que ça va.
On l'a entendu,
le docteur De Grissac l'a dit, tout n'est pas sur l'ordonnance. Loin de là, très loin de là. Et on fait référence aux troubles cognitifs, aux troubles des apprentissages, à tout ce qui peut découler de la présence d'une épilepsie. Et puis, comme tout le monde, la question de la construction du parcours. Finalement, peut-être d'abord avec l'enfant et son entourage, plus que d'aller vers une réponse unique et déterminée à l'avance.
Allez, on va passer à la dernière question qu'on a posée aux gens dans la rue, Marie-Agnès.
Est-ce qu'un enfant épileptique peut participer à la vie scolaire, les sorties, le sport, les voyages, comme un autre ?
La piscine, je dirais peut-être moins, parce que c'est pas évident.
Pas la piscine.
Mais les autres, c'est la compagnie.
Pourquoi pas ?
Cinéma, ça m'inquiète un peu, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des... Il y a souvent les films où c'est écrit « Attention, flash lumineux pour les personnes épileptiques ». Après, je sais pas, sport... j'imagine qu'il faut faire plus attention, mais Enfin, et après, surtout, l'épilepsie... une fois que c'est connu, ça peut être géré un petit peu compliqué, mais ce serait quand même dommage de le restreindre pour ça.
Bah oui, parce que c'est des crises, c'est pas tout le temps. Hein.
Oui. Bah oui, si on adapte.
Oui, si c'est adapté, que s'il est entouré, oui.
Je pense que si c'est un traitement qui jugule bien ces crises, ça doit être faisable.
Bah oui, c'est un enfant normal. Faut pas faire la différence.
Okay.
Même pour lui, s'il a cet handicap, soi-disant, mais il va pas se sentir différent par rapport aux autres.
Voilà, on entend à nouveau cette notion de crise, de médicaments, ça revient à chaque fois. Mais on entend aussi d'autres choses. Oui, Marie-Agnès.
Alors que je peux préciser que dans les questions, il n'y a jamais été
question de crise d'épilepsie.
Oui, c'est juste.
On a toujours dit un enfant épileptique.
Oui, ouais, tout à fait. Et ça revient à chaque fois.
Mais les gens, automatiquement, ils redisent crise.
C'est vrai, c'est revenu. Et pareil, cette notion de s'il y a un bon traitement, après tout, voilà, il n'y a pas de raison. Bah tiens, Aurore, je vois que tu fais un signe de tête. Donc vas-y, je t'écoute. On t'écoute sur ce micro-trottoir et on continue le tour autour de cette... de ces réponses.
Par rapport, oui, donc effectivement, il y a beaucoup les crises qui sont reprises effectivement, et il y a aussi des, oui, des préjugés, enfin des inquiétudes, je dirais plutôt sur certaines activités.
Il y a une méconnaissance. Là, je voudrais vous faire réagir peut-être Marie ou au téléphone docteur de Grissac ou Madame Jaillet, mais il y a cette méconnaissance encore. On entend sur le cinéma par exemple, et on l'avait aussi entendu tout à l'heure, je crois, dans les salles où il y avait de la lumière par exemple. Encore une fois, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a aussi à un moment donné ce besoin de faire connaître les spécificités de chaque personne qui, parce que on est d'accord qu'il y a pas une épilepsie, il y a une épilepsie par patient en fait, chacun est différent. Marie, vous voulez réagir peut-être là-dessus?
Alors moi déjà je voudrais réagir sur la question, parce que ça répond à ce que vous dites d'une certaine manière sur la diversité des épilepsies. Effectivement, nous on essaie toujours de mettre épilepsie au pluriel,
oui.
Parce que finalement chaque personne a son épilepsie, si j'ose dire. Et par exemple, il y a une personne qui a parlé de piscine. Bah, moi, j'ai fait de la natation pendant très longtemps parce que c'était mon sport préféré.
Et bah, fallait pas, elle a dit la dame.
Oui, voilà, mais bon, j'y peux rien. J'aime beaucoup nager.
Oui, bien sûr.
Et puis, l'idée, en fait, c'est aussi, il y a une autre personne qui reprend cette notion d'adaptation. Donc, ça montre vraiment que c'est encore une fois le cœur. En fait, c'est adapter le milieu ordinaire. C'est pas la personne qui arrive qui doit se rentrer dans le moule en fait de ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Et encore une fois, là, on retrouve une autre intervention très intéressante qui dit c'est un enfant normal en fait, comme les autres. Donc s'il a envie de faire de la piscine, s'il a envie d'aller au cinéma, il va au cinéma, il fait de la piscine avec l'adaptation. Pour reprendre encore une fois ce mot qui s'impose.
Vous êtes d'accord avec ça, Madame Jaillet ou docteur de Grissac?
Oui, je suis d'accord avec le fait qu'il y a encore des idées reçues dans le grand public sur la photosensibilité qu'on a tendance à attribuer, à coller à tous les patients, alors qu'elle est quand même extrêmement rare et le plus souvent sous traitement parfaitement stabilisé. Donc c'est vrai que ça a créé un mythe autour de tout ça. Le sport, il faut l'encourager. Aujourd'hui, des études scientifiques l'ont indiqué, donc ça améliore la santé. Il n'y a pas... Les adaptations sont... parfois à la marge, elles sont parfois très simples, elles sont valables pour plein de jeunes, elles ne sont pas forcément très compliquées. C'est vrai que c'est important de distinguer une épilepsie stabilisée d'une épilepsie non stabilisée, parce qu'on n'aura pas les mêmes contraintes. Mais même quand elle est stabilisée, il y a toujours quelques éléments à prendre en compte.
Il y a une personne dans le micro-trottoir qui disait qu'en fait, si on connaît bien en fait la personne et que la personne connaît bien son épilepsie, quelque part, elle peut tout faire. On l'a entendu un petit peu, cette idée-là. D'autres réactions, peut-être Céline?
Oui, moi j'ai noté, on va prendre le positif, la phrase, ça serait quand même dommage de le restreindre juste pour ça. Juste parce qu'il y a la présence d'une épilepsie et peut-être la présence de crises qui vont survenir. Donc pourquoi restreindre? Et je crois que c'est un peu le mot-clé en matière de loisirs, de sport, de vie scolaire.
Et c'est vrai qu'on avait déjà fait une émission. On parlait du sport ici avec notamment des jeunes qui pratiquaient des activités et on s'est aperçu qu'en fait il y avait plein d'activités géniales qui pratiquaient.
Tout est possible.
C'est que simplement c'était comment on adapte et comment on fait attention en fait à ce qui pourrait subvenir. Je vous propose, avant de poursuivre nos échanges, et on va revenir vraiment dans la notion de scolarité, qu'on écoute un titre de Grand Corps Malade, ça s'appelle Retiens les rêves, et c'est maintenant sur RCN dans Et puis c'est tout.
D'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement, j'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants, j'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment. Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement? Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que que c'était un rêve éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé. C'était l'hiver tôt le matin, juste avant que le jour se lève. J'ai regardé vos yeux endormis sereins autour de la table du petit-déj. J'ai aimé. Il y avait l'odeur du grille-pain et vous me racontiez vos rêves. De drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève. C'était un matin commun, mais comme un privilège. J'ai rêvé. C'était l'été à la campagne, il y avait de belles éclaircies. J'ai regardé. C'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis. J'ai aimé. Vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire. Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir. Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait. Quand ils apprennent à lire, nous on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte si c'est pour être papa. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait.
RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et ce matin, on aborde un sujet qui finalement est très très large, mais on va essayer déjà de dégrossir un peu ce sujet, quitte à y revenir dans d'autres émissions. Je vais me tourner vers vous, docteur De Grissac et madame Jaillet. On le disait, vous êtes, alors docteur De Grissac, vous êtes neurologue à l'ITEP de Toularoate, et puis à vous madame Jaillet, neuropsychologue. Est-ce que vous, déjà, vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'ITEP de Toularoate?
Alors, l'ITEP est un établissement qui accueille des enfants et des adolescents pour une scolarité. C'est un établissement qui dépend, comment dire, c'est sur la base d'une notification d'orientation par la MDPH, donc c'est un peu fastidieux pour les, pour les familles.
On précise, pardon, la MDPH, on précise, en général, c'est, oui, quand il y a une demande de reconnaissance du handicap, c'est ça?
C'est ça, voilà. Donc parfois dans le parcours de soins, pour les familles, c'est un peu fastidieux de se dire, il est déjà malade, en plus il est handicapé, c'est compliqué. Ça, c'est une contrainte un petit peu pour accueillir, mais une fois que les jeunes sont dans les murs, c'est une école dans les murs, une école élémentaire, un collège, un internat qui est un lieu de vie avec des pavillons, des unités, qui offre un accompagnement pluridisciplinaire, c'est le gros atout, c'est de pouvoir accompagner les enfants sur toutes les dimensions sur place, à la fois médicales, mais on l'a dit tout à l'heure, les accompagnements autour des apprentissages neuropsychologiques, et puis de la vie sociale, les accompagnements éducatifs, psychologiques, parce que c'est, voilà, et donc c'est sur place de pouvoir avoir toute cette offre. L'établissement accueille des enfants bretons, mais également de toute la France.
D'accord. Marie-Agnès avait une question, je crois, à vous poser par rapport aux enfants que vous accueillez.
C'était... Oui. Je voulais savoir combien d'enfants au total vous accueillez par an.
Alors, on a une capacité d'internat qui est de 60, je crois que c'est 70. On a eu des variations dans l'offre de l'internat. On a une capacité d'internat ou d'accueil de jour autour de 70 et une capacité d'accompagnement en ambulatoire qui est montée récemment à 24 places. Donc, on approche les 100 places au total. Il faut savoir qu'on n'est pas plein actuellement, qu'on n'a jamais eu de liste d'attente ces dernières années et qu'on peut accueillir sous réserve que l'enfant est volontaire, évidemment, c'est pas une prison, hein, il n'y a pas de mur. On peut encore accueillir des jeunes sur l'internat.
Alors, j'entends bien finalement que donc, l'ITEP, globalement, c'est pour proposer de la scolarité adaptée. Vous m'arrêtez si j'utilise les mauvais mots. Mais est-ce que ça veut dire aussi, alors si je reviens au sujet des épilepsies et de la scolarité, que quand on souffre d'une épilepsie, on doit forcément être en scolarité adaptée?
Bien sûr que non. Mais en revanche, il ne faut pas sous-estimer le risque de la scolarité. J'utilise le terme, le pronostic social est engagé. On ne sait pas comment va évoluer l'épilepsie, si elle va être stabilisée, et on ne connaît pas l'ampleur des troubles associés. L'enfant est en plein développement. Il y a beaucoup d'évaluations à faire. Aujourd'hui, dans les recommandations de bonnes pratiques d'accompagnement d'un enfant qui souffre d'épilepsie, c'est de faire ces évaluations.
Parce qu'on entendait tout à l'heure des gens qui disaient, moi, si c'était mon enfant, je voudrais qu'il soit plutôt dans une scolarité normale avec des enfants normaux. Je mets vraiment des guillemets hein, quand j'utilise ces mots-là. Mais si je vous entends, ça veut dire que c'est pas si simple que ça.
Non, c'est pas si simple que ça. Et évidemment qu'on peut comprendre ces enfants qui n'ont pas envie de venir au départ et ses parents. Et les enfants qui arrivent ici, souvent, ils ont testé jusqu'au bout le milieu scolaire. Dépité, victime de harcèlement, de déscolarisation, et finalement c'est au bout de la souffrance et dans l'impasse que les familles font le choix de Toularouat. Nous, on essaye de militer pour un choix plus ambitieux, un peu en amont, un peu plus préventif, de se dire, vous savez, ça va être compliqué à la maison pour les devoirs, ça va être compliqué, il y a un enjeu qui n'est pas, et de pas forcément attendre que tout le monde soit un peu au bout du rouleau, et de dire, nous, on offre aujourd'hui. Et de façon, ça fait 50 ans, plus de 50 ans que Toularouat existe, une approche multidisciplinaire dont la Haute Autorité de Santé a reconnu la valeur et l'intérêt et la pertinence.
J'entends beaucoup parler de harcèlement. Vous permettez qu'on en parle un petit peu tous ensemble. Je vais te donner la parole à Marie là-dessus aussi, parce que Marie, on précise, hein, vous souffrez d'épilepsie, pour bien comprendre et poser les choses. Vous avez une scolarité, alors, quel type de scolarité vous avez eu, vous, Marie ?
À la fois ordinaire et à la fois pas.
D'accord.
C'est-à-dire que, moi déjà, j'ai une grande chance, c'est-à-dire que, au-delà de mon épilepsie, j'ai la chance de ne pas avoir de troubles cognitifs ou intellectuels. Donc, par exemple, sortir les bonnes notes, si je puis dire, ça n'a jamais été quelque chose de compliqué. Mais je voudrais rebondir, effectivement, sur ce que dit le docteur de Grissa, qui est très juste. C'est pourtant, malgré ce profil qu'on pourrait dire somme toute ordinaire, j'ai testé les limites du système scolaire ordinaire. Voilà. Donc c'est...
On peut essayer de définir ce que sont ces limites. On entendait ce que disait le docteur de Grissac il y a quelques instants, qu'il fallait vraiment connaître parfaitement tout ce qui accompagne finalement l'épilepsie du patient. Mais c'est quoi les autres limites? Parce que, on a entendu parler du harcèlement, c'est déjà une limite en soi. On sait qu'il n'y a pas que les personnes qui souffrent d'épilepsie qui peuvent subir du harcèlement. Mais pourquoi est-ce qu'on subit du harcèlement quand on souffre d'épilepsie?
Ben ça, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse, parce qu'en soi, il n'y a aucun motif de harceler quelqu'un tout court, peu importe le motif, en fait.
Oui, mais c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, si je l'entends. On entend le docteur de Grissac il y a un instant. Vous pouvez répondre aussi à docteur de Grissac ou madame Joyet sur ce que j'ai dit là. Hein. Allez-y.
Les enfants ici, souvent, quand on leur demande pourquoi ils ont envie de venir, qu'est-ce qu'ils veulent en priorité en arrivant ici, ils nous disent « je veux des copains, je veux des amis ». En fait, leur nombre d'amis déclarés, comme on dit dans les réseaux sociaux, le nombre d'amis déclarés est très faible et a chuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas forcément toutes les histoires. Les maladresses relationnelles des personnes qui souffrent d'épilepsie, les crises qui font peur, leur absentéisme fréquent, leur lenteur à réagir, leur difficulté de compréhension du second degré dans l'humour, par exemple, dans les relations. Enfin, tout un ensemble de variations va abîmer leurs liens sociaux. Et puis surtout, moi je crois surtout qu'ils ont très vite perdu confiance en eux. L'épée de Damoclès, cette imprévisibilité des crises, le principe de précaution, au cas où tu feras une crise, tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas faire ça, les met en situation de faiblesse et de manque de confiance. Donc avec un sentiment d'infériorité qui Bah, finalement, je ne sais pas, c'est comme de la... c'est un cercle vicieux qui s'installe, négatif. Mmh. Donc, ça va contribuer à les fragiliser et à les isoler. Parfois, malgré une très bonne volonté de
ouais, une volonté de bien faire.
Même parfois des camarades, je crois qu'il y a une incompréhension qui s'installe. Et c'est pour ça que je reviens à la phrase du début de la dame qui disait « je voudrais être à l'intérieur de lui ». En fait, oui. Il se passe quelque chose dans la tête de l'enfant dont on n'a pas forcément la mesure. Mais Marie l'avait dit aussi en préparant... l'émission, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant lui-même ne sait pas très bien ce qui lui arrive, en fait.
Alors, justement, vous parlez de Marie, elle voulait réagir, je crois, elle réagissait à ce que vous disiez, Marie.
Bah, effectivement, c'est là où le docteur de Grissac, quand elle parle de pronostic social, c'est effectivement le terme qui est le plus juste, à mon sens, parce que le pronostic social est, à l'école, un pronostic vital. Si vous n'avez pas, en fait, si vous ne sociabilisez pas, vous êtes plus ou moins... mort, si je puis dire, dans l'école, et surtout dans des périodes comme le collège qui peuvent être particulièrement violentes. La question, en fait, c'est de se dire pourquoi on se sépare de cette personne-là, et ça montre toute la transversalité de l'épilepsie. C'est-à-dire qu'il y a la maladie, avec ses questions de crise, avec ses questions de médicaments qu'on a entendues dans les micro-trottoirs, mais il y a le handicap. Et quel est ce handicap? Est-ce qu'il est... Il peut être de multiples formes, en fait, et notamment social. Et nous, on a plein de témoignages qui montrent que finalement, d'un point de vue social, à la fois par les élèves et par les équipes pédagogiques, l'élève est écrasé, l'élève est mis de côté parce que finalement, être avec cette personne devient un marqueur, on ne peut pas fréquenter cette personne, on ne peut pas être autour de cette personne, ça nous rendrait bizarre. Cette personne en elle-même, pourquoi elle est là, pourquoi elle n'est pas avec des personnes qui lui ressemblent, entre guillemets, c'est des choses qu'on entend beaucoup dans les sollicitations qui arrivent à l'association, par exemple.
Alors, il existe donc la structure de l'ITEP de Toularoua, j'entends bien, qui sont bien adaptées, mais si je vous entends, vous avez une centaine de places, mais des personnes qui souffrent d'épilepsie, c'est beaucoup plus que ça dans toute la France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement réadapter peut-être l'école ordinaire ou est-ce qu'il faut recréer des structures? Comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge les enfants qui souffrent d'épilepsie dans leur scolarité? Allez-y, hein, à Toularoua, n'hésitez pas à réagir.
Oui, je pense que Toularoua, il faut le penser comme une étape dans un parcours de soins, un parcours de vie. Et donc, effectivement, l'idée qu'il existe plusieurs types de structures de réadaptation, un peu comme une cure, on viendrait se regonfler. Nous, notre slogan, c'est grandir, s'épanouir et rebondir. C'est-à-dire accompagner l'enfant dans la compréhension de sa maladie, lui donner les clés pour savoir se défendre, améliorer le contrôle de sa maladie parfois, comprendre là où il a les forces et les faiblesses en classe pendant 2 à 3 ans. Et puis il repart dans un circuit plus ordinaire parce qu'il a été outillé et qu'on lui a donné des explications. Je pense que ça pourrait exister dans les quatre coins de France.
Juste, pardon, vous permettez, parce que je l'avais pas forcément compris, donc je me dis que nos auditeurs ne l'avaient peut-être pas non plus compris, mais donc vous, finalement, c'est pas un endroit où on met son enfant en scolarité pour toute sa scolarité, c'est un endroit où en fait on accueille l'enfant pendant une période dans laquelle il va vivre une scolarité pour lui apprendre à mieux connaître sa maladie, c'est ça?
Tout à fait, vraiment, toute la voie, c'est un passage. Et un passage pour arriver à devenir acteur en fait de sa vie et de sa vie future. Et c'est vraiment les clés qu'on essaye de donner aux enfants et aux ados qu'on reçoit. Ils n'ont pas vocation à vieillir à Toularoua, ils n'ont pas vocation à faire toute leur scolarité à Toularoua. C'est vraiment qu'un lieu de passage.
Donc en fait,
et c'est là où moi je vais rebondir sur l'AESH.
Oui.
Souvent les enfants qui arrivent sur Toularoua, ils ont eu ce parcours à AESH qui les a des fois accompagnés mais aussi fragilisés. Parce que l'AESH n'est pas aussi formée qu'elle ne devrait l'être, malheureusement, souvent. Et l'AESH fait à la place d'eux. Et du coup, l'enfant perd cette habitude d'être acteur de sa vie. Et de sa vie scolaire aussi.
C'est donc, ça qui paraît très important, c'est vraiment de devenir acteur de sa maladie, en fait. De bien la comprendre, de bien la maîtriser pour en devenir un vrai acteur. C'est vraiment...
De sa maladie, mais aussi de sa vie et de sa scolarité.
Ouais. Voilà,
et c'est vraiment les atouts qu'on essaye de leur donner.
Ouais,
dans leur parcours scolaire qui sera le leur après tout la rouette.
C'est important.
On insiste vraiment là-dessus avec eux.
Très bien. Marie-Agnès, vous aviez une question, oui. Une réaction?
Non, c'était simplement pour dire qu'au niveau de Nancy, sur la région de l'Est, il y avait le COSE aussi qui permettait, tout comme Toularouat, c'est un lieu temporaire d'accueil d'enfants qui leur permet justement d'évaluer leur épilepsie et d'aider les parents à prendre en charge leur enfant avec l'épilepsie et de le réintégrer, quand c'est possible, le milieu ordinaire.
Comment est-ce qu'on... Alors, on entend un petit peu l'idée du travail que vous réalisez, qui est d'apprendre à être acteur de sa vie avec son épilepsie. Quels sont les outils que vous leur donnez? Comment est-ce qu'on a... Marie, peut-être vous qui l'avez vécu, vous pouvez nous expliquer comment ça vous a fait grandir. On voit aujourd'hui, vous êtes une jeune femme qui est hyper engagée. Je vous ai même pas posé des questions sur votre activité professionnelle. Enfin voilà, vous avez suivi une vie normale, justement. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, ces 2-3 années de Toularouat?
Ça m'a permis de vivre cette vie normale dont vous parlez, parce que je pense que sans être passée par Toularouat, sans avoir fait ce passage dont parle Madame Jaillet par Toularouat, tac, dans le milieu, ça aurait été impossible, parce que le milieu scolaire ordinaire vous faisait tout au moins comprendre que vous êtes un problème, et TAC vous permet de comprendre quelle est votre maladie, quels en sont ses ressorts et pourquoi vous n'êtes pas vous-même le problème. Quelles armes on peut vous donner pour, finalement, non pas combattre votre maladie, mais combattre la pression qui arrive du fait de cette maladie. Et finalement, ce passage par TAC, alors le mien, il était un peu particulier parce que comme je suis arrivée quand j'étais au lycée, j'ai suivi une scolarité en milieu ordinaire, mais je vivais en milieu médicalisé, en fait.
D'accord.
À Toularouat. Et ça m'a permis de retrouver de l'ambition dans ma scolarité. Ça m'a permis de me dire, je vais pouvoir faire peut-être pas les études courtes dont je m'étais dit que j'allais faire pour me débarrasser de l'école. Ça me fait, parler de ça me fait oublier votre question de départ.
C'était les armes que ça vous a données et qui vous ont permis d'être vous êtes aujourd'hui.
Les armes, c'est ça, c'est la compréhension de la maladie. Et l'ambition scolaire, et on voit que c'est pas impossible, parce que si je puis me permettre, on retrouve c'est quelque chose qui manque, la compréhension, non seulement aux élèves, mais aussi, je me permets de revenir sur les équipes pédagogiques.
Bien sûr.
Parce que c'est là, cette sorte de biscolarité, ça m'a permis de voir non seulement le fossé entre le milieu ordinaire et le milieu adapté, mais parfois aussi les solutions qui peuvent être apportées. Je pense qu'on peut, essayer d'être un peu positif. Justement, le lycée qui est en partenariat, si je puis dire, avec Toularouat, est d'une certaine manière formé aux élèves TAC qui arrivent et gère très bien les choses.
Je vais vous couper parce que vous dites plusieurs fois TAC. On peut juste préciser pour
Toularouat.
Voilà, comme bien préciser que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Ouais, voilà, je vous laisse continuer.
Je suis vraiment désolée.
Non, il n'y a pas de souci. C'est pour que nos auditeurs comprennent que je vous pose la question.
Bien sûr, bien sûr. Parce que on voit qu'il y a des endroits où ça marche beaucoup moins bien. Moi, je suis venue avec quelques témoignages. On a une jeune femme, nous par exemple, qui a été exclue de son ULIS, donc déjà une classe adaptée, qui a été exclue un 30 juin, ce qui est ridicule d'un point de vue de l'année scolaire.
Il reste 5 jours, c'est quand même dommage.
Oui, voilà, c'est malheureux quand même. Et ces ressorts d'exclusion, ils sont toujours présents. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, la peur de l'équipe d'être tenue responsable s'il y a une blessure pendant une crise ou si c'est pas très bien géré. Et en fait, moi, ça s'est bien passé. Mais ce qui est assez choquant quand on a ces histoires-là, c'est qu'en fait, on est dans, je dirais, une exonération de responsabilité de la part des élèves qui peuvent être autour ou des équipes, plutôt que dans une protection des enfants ou des élèves. Mais pour être un peu plus positif, il y a d'autres... nous, on reçoit aussi d'autres témoignages. Et par exemple, c'est en Bourgogne, pardon, dans une commune qui s'appelle La Clète. Il y a une élève, en fait, qui s'est révélée avoir une épilepsie. Et toute l'équipe périscolaire a reçu une formation à laquelle était conviée la maman et l'enseignante. Alors, donc, il y a beaucoup de choses.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Et parce que si j'entends bien dans votre parcours, donc vous êtes interne à Toularouat, et parallèlement, vous êtes dans un lycée qui, lui, a suivi une formation ou a été en tout cas préparé à accueillir des personnes qui souffrent d'une forme d'épilepsie. C'est ça?
Oui, voilà, qui est prévenu en fait, de l'existence de Toularouat et qui, de ce fait, peut gérer, si je puis dire, les questions d'épilepsie.
Donc là, on est en train de basculer de « moi, je connais bien ma maladie » à « et je me connais bien et je sais comment je vais pouvoir prendre ma vie en main avec les outils, les armes ou les faiblesses que je peux avoir. » Mais on parle maintenant aussi de ceux qui vous accompagnent. Je vous propose que dans quelques instants, on va écouter un titre là tout de suite, celui de « qu'est-ce qu'on avait ?» On avait « Kit d'Eddy de Préto » qu'on va écouter. Et juste après, on va revenir un petit peu sur le lien maintenant entre l'élève qui souffre d'épilepsie et les personnels qui encadrent. Ça sera juste après Kid d'Eddy de Préto.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est fou. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
RCM, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et ce matin, le sujet de la scolarité pour les personnes qui souffrent d'une forme d'épilepsie. Toujours à nos côtés, Marie, hein, notre témoin, Marie Ducruix. On a également avec nous le docteur De Grissac et Madame Jaillet, qui sont l'une neurologue et l'autre neuropsychologue à l'ITEP de Toularouat. Et il y a quelques instants, on a bien compris l'enjeu d'un passage pour les personnes notamment qui souffrent d'épilepsie à Toularouat, notamment pour regonfler. Ça, j'aime bien cette idée-là de dire on se regonfle pendant 2-3 ans et on apprend à connaître, à maîtriser les armes, nos forces et nos faiblesses aussi, pour pouvoir ensuite repartir dans une vie normale où on va apprendre à vivre avec tout ça, quoi. Mais il y a quand même cette idée-là, puisqu'on parle de scolarité. De dire à un moment donné, et on l'a bien compris, Toularouat c'est qu'une étape, il faut ensuite retourner dans le milieu ordinaire. Sauf que là, on se rend compte qu'il y a quand même une méconnaissance, non ?
Il y a effectivement une méconnaissance. Les enseignants sont formés souvent aux troubles 10. Ça fait partie de leur formation initiale, mais les troubles neurodéveloppementaux au sens large, dont l'épilepsie, peut faire partie. ils ne sont pas formés. Donc c'est vrai que les crises prennent souvent le devant de la scène et font peur. Et les enseignants ne sont pas forcément formés au fait qu'il va y avoir des troubles cognitifs ou qu'il peut en tout cas y avoir des troubles cognitifs.
On peut rappeler un ou deux exemples de troubles cognitifs pour les auditeurs qui ne sauraient pas trop de quoi on parle. C'est quoi le type de trouble cognitif qu'on peut trouver chez ces élèves?
Alors, chez les personnes présentant de l'épilepsie, le trouble le plus fréquent, c'est le trouble de l'attention ou de la concentration, comme on dit, chez pratiquement toutes les personnes présentant une épilepsie, et quelle que soit leur épilepsie, quel que soit également l'état de l'épilepsie, c'est-à-dire qu'elle soit stabilisée ou pas. C'est quelque chose qui est très présent. Vous l'avez bien évoqué dans votre votre émission de septembre. Et ces troubles de l'attention, c'est un peu la double peine, parce qu'on demande aux enfants beaucoup d'efforts à l'école, et donc la concentration, une concentration plus que les autres, alors qu'elle est déjà un peu défaillante chez eux. Donc au bout d'un moment, c'est le chat qui se mord la queue. On leur demande des efforts, et ces efforts les affaiblissent, et l'attention chute, et pourquoi il faudrait qu'ils en aient plus que les autres. Et voilà, c'est en fait qu'ils se mordent la queue. Le deuxième trouble fréquent chez les enfants, c'est le trouble du langage et les troubles de mémoire. Avec des enfants qui ont ce qu'on appelle une mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, c'est ce qui va nous permettre de retenir l'information sur quelques secondes pour comprendre en fait ce qui nous est dit. Donc souvent, ils ont le début de la phrase, ils ont la fin, mais allier les deux, c'est difficile pour eux. Voilà. Donc ils manquent des informations quand on leur donne une consigne. Donc ça demande encore une fois plus de concentration pour eux.
Oui, donc,
voilà, ça c'est les troubles vraiment les plus fréquents chez pratiquement tous les épileptiques.
Oui, donc c'est ça. Donc en fait, ce qu'on entend par là, c'est que finalement, il faut vraiment adapter la façon d'enseigner, notamment aux troubles cognitifs qu'induit l'épilepsie, en fait, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Et donc à tout la droite, pour vous demander les outils sont assez simples. C'est des classes à plus petit effectif dans le collège pour soulager l'élève avec faciliter sa capacité d'attention. Il y a moins de distractibilité et l'enseignant a plus de disponibilité pour donner les consignes à l'élève. Les enseignants disent parfois que quand ils ont les 10 élèves dans la classe, ils vont donner 10 fois la consigne en fait. Les enfants ont besoin pour être attentifs qu'on leur donne la consigne en direct.
Mais quelle est la solution alors? Parce que tout la roue, les enfants, ils passent 2-3 ans, effectivement, on le disait, mais c'est quoi la solution? Quand ils repartent après de chez vous, ils vont retomber dans un milieu ordinaire où le professeur ou l'instituteur va pas reposer 10 fois la question parce que bah, lui, il, peut-être même il le sait pas en fait que ce trouble cognitif nécessite cette attention-là.
Alors, il va y avoir des destins variés. Il y a ceux qui vont avoir transitoirement améliorer leur santé, diminuer leur quantité de médicaments et finalement leur développement, développer des moyens de compensation et être plus efficace avec un rendement scolaire meilleur. Donc ils vont pouvoir continuer une filière. Alors parfois c'est une filière générale, dans nos jeunes qu'on accueille, ça reste à la marge, mais c'est des filières professionnelles et engager des formations plus concrètes où là ils sont dans le pratique avec un apprentissage d'un métier sur des ateliers et ils seront opérationnels. Il y a des enfants dont le pronostic finalement médical est moins bon et ils vont avoir des difficultés et ils vont continuer un cursus vers un autre établissement spécialisé, médicalisé. On a une très grande diversité de profils et de devenir à l'arrivée comme au départ et on n'est pas toujours capable de dire à l'avance ce qu'il va se passer. En fait, c'est la difficulté. Ça demande aux équipes d'être souples dans leur adaptation, dans les situations qui varient énormément au gré de la maladie. C'est quand même une maladie avec des fluctuations terribles dans l'évolution des crises, la fréquence, la tolérance des traitements, puis l'anxiété. Un autre élément dans les armes, c'est de donner du temps, parce que dans le trouble cognitif fréquent, c'est cette lenteur à faire les choses. Et donc se permettre qu'on leur donne plus de temps sans les dénigrer. Je pense que c'est important aussi. Et la dédramatisation de la situation, parce qu'il y a un collectif où ils ne sont pas tout seuls à être en difficulté, c'est une arme importante. Voilà.
Mais ça oui, c'est beaucoup d'armes que vous donnez, vous, mais encore une fois, si on retranspose ça à l'école ordinaire où les enfants retournent à la sortie de chez vous, c'est vraiment ça qui m'interroge un peu, parce que, encore une fois, il faut bien que derrière, ils puissent reprendre une scolarité ordinaire, entre guillemets, puisqu'ils ne peuvent pas rester tout leur parcours scolaire chez vous. Et tout ce que vous dites là, c'est des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui, en tout cas qu'on n'a pas l'impression de voir dans les écoles. Marie, je vous vois réagir à ça, peut-être Marie réagit.
C'est toute la question en fait du passage de témoin, si je puis dire, à des institutions comme Toularouat, ensuite aux associations, par exemple, qui dialoguent avec les instances départementales, régionales, nationales, pour essayer de mettre en place avec eux les questions de ce qu'ils appellent l'école inclusive. Après, la manière dont c'est fait, c'est toujours une question sur laquelle on pourrait débattre assez longtemps. Mm-hmm. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est plus comment on s'inspire, finalement, peut-être des modalités mises en place par Toularouat pour pouvoir, peut-être pas les reproduire à l'identique, mais dans une modeste mesure, essayer de les appliquer dans le cadre du milieu ordinaire. Si on voit que ça marche, pourquoi ne pas le faire ?
Et ça, à Toularouat, vous accompagnez justement des écoles, des établissements scolaires qui vous demandent, par exemple, de les former pour bien accompagner ces jeunes-là?
Tout à fait. Sur le territoire, on travaille notamment avec la PMO, Prestation en milieu ordinaire, c'est ce qu'on appelait avant le CESAD, avec plusieurs écoles du territoire où on accompagne des enfants dans leur scolarité. On va rencontrer les enseignants, on discute des adaptations qui sont possibles pour eux de mettre en place, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont une classe où ils ont 30, voire 35 enfants dans certaines classes. Donc tout n'est pas forcément possible de mettre en place. Mais en tout cas, on essaye de les sensibiliser vraiment au fait que ça va être eux, pour le coup, là aussi, l'acteur des propositions d'adaptation pour les enfants. Parce que souvent, les enseignants, en fait, ils se sentent démunis. Au départ, ils commencent par nous dire qu'ils ne savent pas, alors que si, ils savent plein de choses, ils sont pleins de savoir. Et en fait, c'est aussi leur redonner confiance dans ce qu'ils peuvent proposer aux enfants et dans la façon dont ils vont pouvoir adapter. Donc nous, on va les accompagner dans ce parcours-là aussi. C'est vrai que pour les enfants qui viennent de plus loin, on peut le faire par téléphone, ça arrive plus rarement, mais pourquoi pas. Et avec la visio qui se met en place, ça pourrait être aussi un des objectifs.
Oui, on a entendu votre appel tout à l'heure de développer des structures comme l'ITEP un peu partout en France. Et c'est vrai que pour le coup, on l'entend bien ce matin, c'est extrêmement important. On va déjà mettre fin à cette émission, ce sera passé beaucoup trop vite malheureusement. Mais de rappeler quand même l'enjeu, peut-être le premier enjeu, c'est de rappeler que c'est pas une punition de venir à Toularouat ou dans un ITEP ou dans une structure comme la vôtre. Au contraire.
C'est une chance.
Un tremplin. Moi, j'ai aimé cette idée de on se regonfle, on apprend à se connaître et on apprend à savoir ce qu'on est en capacité de faire. Ouais.
On apprend à savoir que tout est possible.
Que tout est possible en adaptant un petit peu les choses. Et puis, cette notion d'accompagnement que vous faites. Merci beaucoup vraiment à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Je regrette qu'elle se termine déjà parce qu'on aurait eu tellement de choses encore qu'on aurait voulu aborder, mais je suis sûr qu'on refera une émission et qu'on aura le plaisir de vous avoir à nouveau en ligne. Merci à vous, Madame Jaillet. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue à l'ITEP de Toularouat, donc en Bretagne. Madame la docteure de Grissac, vous êtes, vous, neurologue. Merci aussi beaucoup, Marie, d'être venue dans l'émission. Pareil, j'aurais aimé avoir encore plus de temps pour échanger avec vous, mais vous reviendrez.
Ah oui.
Promis, vous reviendrez avec grand plaisir. Céline, Aurore, à la fin de l'émission, on aime bien vous donner quelques informations supplémentaires, en tout cas des liens que vous pouvez aller suivre pour avoir plus d'informations. Qui veut nous en parler, Aurore?
Oui,
Céline,
alors, Aurore. On va avoir notamment par le centre spécialisé Phare un padlet sur le sujet avec des guides, conseils, ouvrages de référence. Il y a des vidéos à découvrir également. Le site de Toularouat. Également aussi, le livre blanc de l'épilepsie avec tout un chapitre qui est consacré à la scolarité. Et on aura tout ça en ligne.
Et on va vous mettre toutes ces références sur la vidéo.
Et on ajoutera, comme l'a dit Marie-Agnès, l'équipe du Centre d'observation et de cure pour enfants épileptiques associée à l'établissement régional d'enseignement adapté sur le site de Flavigny-sur-Moselle pour les Lorrains, Champardonnais, en tout cas ceux de la région.
Et nous reparlerons, c'est sûr, épilepsie et scolarité dans cette émission. Ouais. C'était passionnant. Merci à toutes et tous.
Le mois prochain, épilepsie et santé mentale, comment l'épilepsie peut générer des questions de santé mentale et vice-versa. Voilà, on aura une émission spécifique là-dessus le mois prochain.
Toujours un bonheur de vous avoir dans ce studio. Marie, on a hâte de vous revoir très vite. Et encore merci donc à Madame Jaillet et au docteur De Grissac. On se retrouve donc dans un mois pour une prochaine émission. D'ici là, belle journée à tous et à bientôt.
Au revoir.